Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Gaëlle Mac, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une de Challenge cette semaine. JO, être à la hauteur sur les questions de budget, de sécurité, de transport, de médailles. C'est marrant parce que je ne suis pas tellement le sujet des JO, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont envie que ça plante. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. On prévoit que ça ne va pas bien se passer, on prévoit que ça va être très compliqué, on prévoit que ça va coûter une fortune, que ça va pourrir la vie des gens.
Oui, oui, bon.
Alors que bon...
À vrai dire, le Comité international olympique dit que c'est le cas avant chaque édition des JO, que c'était le cas au Royaume-Uni en 2012, qu'on ne se souvient pas, mais que la santé situation politique était très tendue et que personne n'en avait... Enfin, tout le monde avait envie que ça plante. Et puis, dès qu'on se rapproche de l'échéance, on voit tous les problèmes techniques et on chronique tous les couacs. Mais bon, je pense que si le premier week-end, Léon Marchand a une médaille d'or en natation, on aura oublié tout ça.
Non, mais c'est chaque fois la même chose. Espèce de sentiment de vouloir que ça plante. J'ai du mal à suivre. Bon, Guillaume Richard, bienvenue.
Bien,
président du groupe de service à la personne WeCare. Alors, je vous demanderai votre avis sur les déclarations du président de Michelin, là, il y a quelques jours dans Le Parisien. Il fait ce qu'il veut avec ses salariés et ce qu'il appelle lui un salaire décent chez Michelin. Mais quand il répond aux Parisiens, il va plus loin parce qu'il dit le SMIC en France n'est pas décent. Il dit pas indécent, c'est pas pareil, mais n'est pas décent. Ça a mis un sacré souk, on va dire. Romain Rivaton, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate, membre du conseil scientifique de la Fondapol. Vous avez publié Sourions, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Et alors j'apprends que vous êtes président du COMEX 40. Qu'est-ce que c'est que le COMEX 40 ?
Le COMEX 40, c'est une instance de jeunes dirigeants au sein du MEDEF qui a été créée il y a maintenant 7 ans et qui rassemble une quarantaine de jeunes dirigeants issus des MEDEF territoriaux, des branches, et qui a vocation à être un peu un laboratoire d'idées pour le compte du MEDEF.
C'est le centre des jeunes dirigeants du MEDEF.
Voilà. Oui.
Mais vous n'étiez pas MEDEF avant ?
Non, mais on m'a fait cette proposition, étant un dirigeant d'entreprise qui s'engage dans la vie de la cité, c'est quelque chose que j'ai accepté.
Du coup, je vais vous demander ce que vous pensez de l'avenir du paritarisme, parce que bon, la volonté de fissurer le paritarisme depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un secret de polichinelle, mais plus les choses vont, et plus c'est précis, ça vous chagrine d'imaginer qu'on va un peu écarter les partenaires sociaux de leur rôle traditionnel de co-gestion paritaire de tous les organismes sociaux ?
Ça me chagrine, je sais pas. Je dirais que le sujet est d'abord d'être efficace, et donc ça, je pense que c'est important. Et sur le sujet de l'assurance chômage, les négociations avançaient quand même. Donc même si le gouvernement a tendance à dire qu'elles étaient totalement enquistées, en réalité, elles avançaient quand même un petit peu. Après, il a pris une mesure qui était une mesure quand même de bon sens, en l'occurrence. À mon avis, essayer de pousser à l'employabilité sur ce marché du travail français.
Ouais, la mesure de bon sens, vous pensez à laquelle, Robin ?
Bah, ce que vous énonciez tout à l'heure.
Moi, j'ai beaucoup parlé de ce sujet. Tout le monde va réagir, on prendra la parole librement. J'ai beaucoup parlé de ce sujet ici avec l'un de mes invités qui est quand même assez pointu, c'est Stéphane Carcillo. Il m'a dit que toutes les études empiriques montrent que si vous voulez accélérer le retour à l'emploi, ce que Gabriel Attal indique vouloir faire. Moi, je lui ai dit de manière un peu provocatrice, je le dis sur BFM TV, il me pose la question, il me dit, vous savez pourquoi on réforme ? Je lui dis, pour faire des économies. Je lui dis, comme c'est pas ce que vous allez me dire, moi c'est ce que je vous dis. Et évidemment, il me dit que c'est pour accélérer le retour à l'emploi. Le seul paramètre qui permet d'obtenir ça, c'est de réduire la durée d'indemnisation. Or, et visiblement, c'est le paramètre sur lequel on va reculer, Gaëlle Mac.
Bah, c'est pas ce qu'on a l'air de faire. Là, on a l'air de... On va, je pense, plutôt jouer sur les critères d'éligibilité.
C'est ça.
Mais parce que c'est ce qui permet de faire des économies
plus
rapidement.
On est d'accord.
Et alors que, bon, effectivement, les études ont l'air de parler plutôt de la durée d'indemnisation. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que, je suis d'accord, hein, les partenaires sociaux n'étaient pas si encalminés. En fait, depuis le début, clairement, l'État a été très 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 impatient. Enfin, le gouvernement voulait reprendre la main le plus vite possible, puisqu'il veut faire ses économies, en fait. Hein, c'est quand même le sujet.
Bon, ça fait longtemps que c'est tripartite en réalité, cette histoire.
Voilà, donc. C'est la troisième réforme qu'ils font, hein, depuis... ils en ont
depuis
fait
2022.
Déjà, voilà, ils en ont déjà fait une en 2021, enfin qui était en 2019, mais qu'ils ont attendu après le Covid, donc 2021. Ils en ont refait une début 2023. Ils en refont une maintenant. Il faut se souvenir que Elisabeth Elisabeth Borne est un peu fâchée parce que quand même on avait dit que ces réformes, qu'en fait on durcissait, on serrait la vis quand le chômage baissait. Le chômage ne baisse plus, le chômage remonte. Or, on va de nouveau serrer la vis, donc c'est pas, on n'est pas complètement dans le discours de départ. Après, c'est vrai que un certain nombre d'études montrent qu'il y a quand même des effets de la durée d'indemnisation sur le temps au chômage. Il y avait même un calcul, je crois, où on montrait que si que pour 10 jours d'indemnisation supplémentaire, il y avait 3 jours de chômage supplémentaire. C'était une synthèse.
J'avais lu à peu près ça. Ouais.
Voilà, d'un certain nombre d'études internationale qui montrait ça. Bon, mais là encore, c'est manifestement pas ce qu'on va faire cette fois-ci. Hein.
Surtout qu'au début, Gabriel Attal dit on va réduire la durée d'indemnisation, ce qui a été fait dans la précédente. Hein. Les moins de 53 ans sont déjà passés de 24 mois à 18 mois et il avait dit lors d'une déclaration on n'ira pas en dessous de 12. Mais aller à 12 mois, ça voulait dire en fait installer le modèle d'assurance chômage allemand chez nous. C'était en fait faire nos lois Hartz avec 20 ans de retard.
Voilà, par ailleurs, il faut quand même, quand on fait ces réformes-là, il faut quand même vraiment améliorer le service public d'aide de soutien à l'emploi. Et ce n'est pas simplement en changeant de nom et en l'appelant France Travail qu'on fait le job. Hein.
Je crains que ce soit assez vrai. Allez-y, Guillaume Richard, là-dessus, sur ce qu'on vient de se dire.
En fait, il y a on parle à chaque fois du chômage. Oui. On ne devrait pas parler du chômage, mais des chômages. Parce qu'il y a des réalités extrêmement différentes qui se cachent derrière un seul et même terme qui est le chômage. Il y a des chômages très différents entre, que l'on comprend tous, entre quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui est sans diplôme et qui a toute sa vie travaillé sur des métiers manuels et qui est dans le fin fond de la France, et celui qui a 30 ans, surdiplômé et qui habite à Paris. La situation est absolument pas la même. Et le fait de réduire, d'augmenter pardon, le nombre de mois de cotisation pour permettre l'accès au chômage.
C'est 6 mois sur les 24 derniers mois.
C'est ça.
Aujourd'hui.
Et donc ça cible une certaine catégorie faible spécialistes de l'intermittence entre travail, durée de travail rémunérée de façon déclarée, durée au chômage avec travail non déclaré.
C'est l'objectif de Gabriel Attal, c'est ce qu'il a dit.
C'est un des objectifs, et là-dessus, je pense que ça aura des effets. Effectivement, peut-être. Pour l'immense majorité des chômeurs qui, eux, ne sont pas dans une situation gestion économique de la situation entre l'alternance de période travaillée et de période non travaillée, pour l'immense majorité des chômeurs, ça n'aura pas un impact sur le retour à l'emploi. Effectivement, le retour à l'emploi est accéléré et favorisé. Alors, à la fois quand on réduit la durée, mais aussi quand on explique à ces chômeurs que le calcul qui consiste à dire j'ai droit à 18 mois, donc les 12 premiers mois, je vais à peu près globalement en profiter. Et puis après, je chercherai vraiment activement sur les 6 derniers mois, n'est pas un bon calcul en réalité, parce qu'en fait, plus on reste longtemps éloigné de l'emploi, moins on est employable.
Et plus on retrouve aussi, ça,
et moins on retrouve un emploi bien rémunéré. C'est-à-dire que si vous avez une très courte période de chômage, vous retrouvez un emploi équivalent ou mieux rémunéré. Si vous avez une période de chômage plus longue, vous retrouvez un emploi souvent moins bien rémunéré. Et de moins bonne nature.
On a eu le bilan 2023 de France Travail qui a été publié vendredi et qui confirme qu'effectivement c'est la barrière des 6 mois qui crée cette bascule. L'employabilité baisse considérablement au bout de 6 mois et c'est toujours ce qui a été observé. D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure que l'Allemagne justement alertait sur le fait que oui. Attention, ne vous dites pas, n'ayez pas cette espèce de réflexe un peu simple de se dire, bon ben je vais d'abord profiter un peu de l'histoire pour commencer à chercher quand arrive la fin.
Non, il y avait effectivement des chercheurs ont fait une étude, enfin ils ont fait même une expérience, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des brochures à un certain nombre de chômeurs, des brochures dès les premiers jours de chômage, en leur expliquant un peu la conjoncture du marché de l'emploi, et puis justement les résultats d'études montrant que plus on attendait pour reprendre un emploi, et plus c'était en fait difficile, et plus on c'était difficile de retrouver le poste qu'on voulait, au salaire qu'on voulait, etc. Et en fait, ils ont fait un peu comme une étude qu'on fait en pharmacie avec un groupe témoin et un groupe placebo. Et donc, ils ont regardé ceux qui avaient reçu les brochures par rapport aux chômeurs qui n'en avaient pas reçu. Et ils se sont aperçus que les chômeurs qui avaient reçu les brochures, en moyenne, ils retrouvaient un emploi. Ils étaient en recherche active d'emploi plus rapidement et retrouvaient un emploi en moyenne 2 à 3 mois plus rapidement. Donc il y avait eu un espèce d'effet simple de l'envoi de brochures.
C'est ce qu'on appelle faire de la pédagogie. Bon. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, Romarie Vatton, sur... Donc maintenant, on sait, 1er juillet, par décret, plutôt que prévu, décret de carence qui va courir pendant 3 ans, avec l'État qui reprend totalement la main. Bon, Catherine Vautrin a voulu dire qu'elle allait consulter quand même les partenaires sociaux d'ici juillet pour pas tout faire... Bon, la messe est dite, quoi.
Bon, la messe est dite, l'État a fait ce qu'il voulait faire depuis quelques mois, et encore une fois, c'est un peu dommage, parce que, comme je le redisais, les choses avançaient, malgré tout, du côté des partenaires.
Alors, il y avait l'UDP qui va être un peu déçu, parce que le ministère du Travail a communiqué hier, alors qu'aujourd'hui, ils espéraient arriver à aboutir sur l'histoire du contrat épargne-temps universel. On en dira un mot du contrat épargne-temps universel tout à l'heure, quand on parlera de simplification. Est-ce qu'il faut faire comme Samsung ? Alors, Samsung, déjà depuis le début de l'année, a indiqué à ses cadres en Corée du Sud qu'il était hors de question de baisser les bras et qu'il fallait travailler un jour de plus. Alors, un jour de plus qui n'est pas rémunéré en plus, parce que les cadres dirigeants chez Samsung ont un contrat qui fait qu'ils sont considérés comme employeurs et pas comme employés. Et là, visiblement, ça va être généralisé à l'ensemble des cadres de l'entreprise. Il y a plus de 300 000 salariés dans 70 filiales réparties dans 80 pays. C'est un conglomérat, un chaebol absolument monumental. Ils ont vu que l'activité reculait, que le pétrole est plus cher. Ils craignent un peu l'élection américaine. Donc, ils veulent diffuser un sentiment de crise et déployer tous les efforts pour la surmonter. Ça vous inspire quoi ? Samsung, semaine de 6 jours, non négociable.
Alors déjà, je pense que ça va quand même dépendre du droit du travail local.
Voilà, hein,
voilà. Je pense qu'il va y avoir quelques petits soucis, je pense.
On n'est pas part. Enfin, c'est voilà.
Voilà.
C'est où, c'est pas.
Voilà, même en tant que cadre dirigeant, je sais pas employeur, mais en tout cas en France, un cadre dirigeant reste un salarié. Hein, et même
mais
si
il est annualisé les salariés.
Il est annualisé, mais enfin les 6 jours. Enfin là, en l'occurrence, on parle quand même d'une augmentation de temps de travail sans augmentation de salaire. Donc je pense qu'il y a un peu petit sujet. Et après, on se demande pourquoi les Coréens sont le pays qui a la plus faible démographie au monde, qui ne fait que 0,72 enfants par femme. Mais peut-être que, quand même, le rythme de travail coréen n'est pas égal à une qualité de vie vraiment intéressante.
C'est sûr qu'ils ont eu un débat l'an dernier pour savoir s'il fallait aller à la semaine de 69 heures. Aujourd'hui, c'est une semaine de 40 heures auxquelles peuvent s'ajouter 12 heures supplémentaires. Travailler plus, c'est la solution, Guillaume Richard. Nous, là, on est en train de débattre sur la semaine en 4 jours.
Voilà. En fait, on a une approche culturelle qui fait qu'on trouve ça un peu surprenant, pour ne pas dire complètement déphasé par rapport à ce que nous on vit.
Imaginez, on lance le débat en France.
Par rapport à ce qu'on vit sur la semaine des 4 jours. Nous, on est sur la semaine des 4 jours. Mais enfin, ceci dit, c'est la semaine des 4 jours où on fait nos 35 heures en 4 jours. Donc, c'est quand même pas une baisse du temps de travail.
Il y a la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours. Ouais,
c'est ça. Donc, mais bon,
pour l'instant, rien n'est obligatoire et heureusement, la loi ne devrait pas passer par là.
En tout cas, il y a un point qui, moi, me semble important, c'est qu'à un moment, la création de richesse, elle passe par du travail. Et c'est ce que dit Samsung. Ce qu'il y a derrière ça, c'est de dire, l'entreprise est dans une situation difficile parce que notamment la division semi-conducteur a perdu énormément d'argent l'année dernière. La façon d'y remédier, c'est qu'on travaille plus parce que le travail est créateur de richesse. Et donc, travailler plus, c'est créer plus de richesses. Alors après, on peut s'interroger sur la meilleure répartition vie personnelle, vie professionnelle. Est-ce que les heures qui seront travaillées en plus seront des heures vraiment productives et intellectuellement positives ? Maintenant, moi, j'ai aussi lu que cette journée en plus était destinée à ce que les cadres se réunissent pour prendre le recul sur l'activité qui s'est faite dans la semaine et avoir une approche stratégique. Et donc, pas une journée de travail, de réunion... et de opérationnel et axé sur l'opérationnel, mais plus une journée supplémentaire de réflexion et de prise de recul pour aborder la semaine qui suivait avec des meilleures analyses. Donc, voilà, moi, ce que je retiens, et de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, la création de richesse, elle passe par du travail. Et c'est pas en diminuant tout le temps de travail qu'on arrive à créer de la richesse. La création de richesse, elle passe par du temps de travail. Après, il faut le bon équilibre. Nous, de notre appréciation culturelle, ça semble complètement délirant. Mais il y a un point qui est majeur et qui reste partout dans le monde. plus il y a de travail, plus il y a de création de richesse.
Puis généralement, effectivement, si vous avez un enfant qui a des problèmes à l'école, vous lui dites pas de travailler moins. Vous lui dites
généralement, on lui dit pas de travailler moins. On lui dit pas, tiens, regarde les dessins animés, ouais, comme ça, après, tu seras dans une meilleure état d'esprit pour travailler mieux.
Mais effectivement, l'idée, vous avez raison de le souligner, c'est que cette sixième journée soit du temps de cerveau disponible pour se poser des questions, plus que pour traiter ses mails comme on l'a fait le lundi, le mardi, le mercredi. Réaction à cette histoire, Robin, vous dites, bon, ben c'est Samsung, c'est des Coréens, c'est des Suisses. En fait, je disais ce matin, c'est comme les Japonais, quoi. C'est le seul peuple au monde qui accepte de vivre toute sa vie sans demander une hausse de salaire. Voilà, on n'est pas tous japonais, on n'est pas tous sud-coréens. C'est un cas sud-coréen, très bien, mais...
Évidemment, il y a des appréciations culturelles qui sont différentes, mais encore une fois, le message, il est quand même intéressant. On demande que ce soit exemplaire, c'est de l'exemplarité. On demande quand même aux gens en haut de travailler plus. Et donc, c'est quand même le message en cela est intéressant. Souvent, c'est plutôt, on dit, on va augmenter la cadence dans les usines, on va élargir les horaires d'ouverture des magasins, et ainsi de suite. Là, ils disent, c'est les cadres dirigeants d'abord, puis ensuite, c'est les cadres du groupe. Évidemment, ça va buter sur la réglementation sociale dans tous les pays où ils sont présents. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis, je crois beaucoup plus que vous l'avez dit aussi, c'est plus une question de sentiment et d'image que de réalité concrète. On imagine bien, même en Corée du Sud, que le gars qui va venir le samedi, il va venir avec quand même un peu moins de motivation. Il va peut-être pas venir à 7h30 du matin et il va peut-être faire des tâches qui vont pas être nécessairement liées à l'augmentation de la production de l'entreprise, mais plus à des choses stratégiques. Mais c'est un signal qui est envoyé pour dire, bah, vous voyez, la conjoncture est difficile, le groupe traverse une phase qui est moins prospère ou moins agréable que les années dernières, donc il faut faire un effort, et c'est en haut que ça commence. Et bah, c'est un message, personnellement, que je trouve pas totalement déplacé, et même d'un point de vue, même si effectivement culturellement, c'est pas le monde auquel on appartient, c'est un message que je trouve que dans certaines entreprises, on peut parfois faire passer, et qui marche quand on fait passer ce sentiment, quand on arrive à expliquer à ses équipes que on a eu des mauvais résultats, que ces mauvais résultats sont parfois imputables à des choses externes à l'entreprise et qu'il faut réussir à remettre un coup de collier pour réussir à remonter la pente, ça marche. Les gens sont engagés et les gens le comprennent. Encore une fois, s'il y a cette dimension d'exemplarité derrière, si c'est dire aux autres vous allez faire, mais pendant ce temps-là, moi je vais vous regarder faire, ça marche pas. Si vous vous mettez dans le camion, en général, c'est un message qui peut passer. Donc je pense qu'ils le font assez à dessein, de manière assez certaine sur les résultats.
En tout cas, c'est une obligation, hein. C'est pas le volontariat.
Bien sûr.
Pour clore le sujet, et puis après on marquera une pause, Guillaume Richard.
Effectivement, le point
d'exemple, vous rajoutez un truc, mais...
Effectivement, le point d'exemplarité, il est super important. On ne demande pas à la base, ce sont les dirigeants qui le font. Et si on prend, même en France, quel est le nombre de dirigeants d'entreprise qui travaillent à minima 6 jours sur 7? Il est extrêmement important. Il est extrêmement important.
Ah, de dirigeants d'entreprise, oui, ça c'est...
Bah, donc, sur les dirigeants d'entreprise, parce que là, on est en train de parler juste des cadres dirigeants. On n'est pas sur l'ensemble des cadres, ce sont les cadres dirigeants. Quel est le pourcentage de dirigeants d'entreprise qui travaillent au moins 6 jours sur 7? Il est extrêmement important. Il est extrêmement important. Quel est le nombre d'agriculteurs qui travaillent 6 jours sur 7? Il est extrêmement important. Quel est le nombre d'artisans qui travaillent 6 jours sur 7? De nombre de commerçants qui travaillent 6 jours sur 7? De nombre de restaurateurs qui travaillent 6 jours sur 7? Donc, il y a quand même aussi, en France, aujourd'hui, dans les dirigeants, dans les artisans, dans les chefs d'entreprise, dans certaines professions libérales, beaucoup de gens qui travaillent 6 jours sur 7.
Vous voulez dire un truc, Gaël? Non, bon, mais on marque une pause. Mais si vous voulez, bon, pour en dire un mot. Après, on va, effet miroir, regarder l'extraordinaire accord social qui a été accordé à la SNCF. Je dois reconnaître que là, je vous rappelais l'histoire du lundi de Pentecôte, qui avec la SNCF avait fait un communiqué très sérieux pour nous dire qu'elle allait appliquer le lundi de Pentecôte en faisant travailler 1h27 ou 1h23 de plus par
une
jour.
Une minute.
1h27 ou 1h23, les agents, tous les jours de l'année. C'est génial. On marque une pause, à tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.